Le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Notre-Dame de Paris, dévastée, défigurée, mais debout. Le feu est maîtrisé. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette nuit dantesque. Une nuit de prière et de chant pour les fidèles, recueillis à quelques centaines de mètres de la cathédrale. Un témoignage d'une touriste qui était à l'intérieur de l'édifice au moment où a retenti l'alerte incendie. Émotion planétaire, avec Valérie Crova, nous ferons un tour du monde des messages postés par diverses personnalités. Quant aux œuvres d'art très nombreuses à notre Notre-Dame, ce fut hier soir une course contre la montre pour mettre à l'abri les objets les plus précieux. La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont pu être sauvés des flammes. Un 7-9 ce matin, Nicolas, essentiellement consacré à ce tragique incendie.
Oui, le premier invité est le ministre de la Culture, Franck Riester. Il sera au micro d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Tristesse infinie et désolation, Laurence, l'île de la cité de Paris se réveille ce matin le cœur serré.
Encore sous le choc de ce tragique incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il aura fallu 8 heures aux pompiers pour maîtriser les flammes gigantesques qui ont ravagé l'ensemble de la toiture. Une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus, ni certains vitraux centenaires. Des milliers de personnes ont veillé cette nuit près de l'édifice, une nuit de chants et de prières. Reportage sur la place Saint-Michel, de l'autre côté de la Seine, face à la cathédrale, fait par Yann Gallet.
Des centaines de personnes se sont rassemblées spontanément derrière les barrières de sécurité face à Notre-Dame. De nombreux Parisiens observent impuissants et abasourdis les flammes et les colonnes de fumée qui s'échappent de la cathédrale.
Je suis née à Paris, alors pour moi c'est dramatique. Jamais je pensais voir ça de mon vivant. Pour moi c'est un gros choc. Spontanément je suis venue ici parce que j'habite le 15e, on est venu à pied pour se regrouper tous là pour... constaté parce que je voulais pas y croire, c'est effroyable.
Les plus croyants chantent et prient pour Notre-Dame dans une ambiance de veillée funèbre, certains à genoux sur les pavés, d'autres en larmes comme Lucie.
Notre-Dame, c'est la France. Vraiment, je suis dans tous mes états et je prie, oui, et qu'on puisse faire ce qu'il faut peut-être pour la reconstruire. J'aimais beaucoup cette cathédrale.
On essaye de rendre hommage comme on peut à cette cathédrale qui est vraiment un symbole de la ville, quoi. Moi, je suis croyant depuis que je suis tout petit et ça me fait vraiment un choc. C'est dur de voir ça, il y a tout qui part en fumée. J'espère que l'essentiel va rester intact, quoi. Mais c'est très triste.
Malgré la tristesse et la sidération, les plus optimistes espèrent que l'on pourra reconstruire ce qui a été détruit, même si Notre-Dame ne sera plus jamais la même.
Yann Gallic. Les enquêteurs ont commencé dès cette nuit à recueillir les témoignages des personnes qui travaillent sur le chantier de Notre-Dame. Le feu apparemment d'origine accidentelle aurait pris dans les combles de l'édifice peu avant 19h. Il semble être parti au niveau des échafaudages installés sur le toit en travaux depuis plusieurs mois maintenant. Le feu est maîtrisé ce matin et toute la question désormais est de savoir dans quel état se trouve la structure du bâtiment, car les deux tours sont apparemment sauvées. Mais dans quel état d'éventuelle fragilité se trouve-t-elle? C'est ce que les experts vont devoir très vite déterminé, comme le précisait il y a quelques instants Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Revenons à présent sur les premiers instants du drame. Il est 18h30. Une première alarme retentit à l'intérieur de la cathédrale. Les fidèles assistent à la messe. Ils sont loin d'imaginer ce qui se passe dans la charpente. Témoignage de Nathalie, touriste russe, recueillie par Mathilde Dehimi.
La première alarme s'est déclenchée pendant la messe. Ils ont demandé à tout le monde de sortir par les grandes portes qu'ils venaient d'ouvrir. Au bout de 5-7 minutes, la sécurité cherchait encore à savoir si c'était une fausse alarme ou s'il y avait le feu. Finalement, les prêtres et fidèles ont pu de nouveau rentrer et la messe a continué. Mais le prêtre qui lisait ratait des pages car il était nerveux. Au bout de 3-4 minutes, on a entendu un grand boom. Peut-être sur le toit. C'est à ce moment-là que la seconde alarme s'est déclenchée. Ils nous ont fait évacuer très vite. Quand on s'est retrouvés dehors, il n'y avait pas de fumée ni de flammes, mais une étrange lumière. J'ai cru que c'était un problème au niveau de l'échafaudage, rien de sérieux, et là le feu s'est déchaîné.
Des Parisiens, des touristes du monde entier médusés, des cris d'horreur qui s'élèvent de la foule massée et retenue le long des quais de Seine. Une foule pétrifiée par les pépanages jaunâtres et par les flammes qui grignotent à toute vitesse la toiture de l'édifice mythique. Les images impressionnantes sont sur toutes les chaînes de télévision du monde entier. Et les réactions, Valérie Crova, s'enchaînent sur le même thème. Un symbole de la France est en feu, des scènes déchirantes.
Oui, c'est une onde de choc qui s'est propagée dans le monde entier, en Europe, sur le continent sud-américain, en Afrique ou dans le monde arabe. arabe, partout, l'émotion est à la hauteur de ce monument emblématique de Paris et de la France. Un mot revient très souvent dans les commentaires, c'est celui de catastrophe. Une catastrophe pour la France, l'Espagne et l'Europe, a écrit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Une catastrophe pour la culture et l'art mondial, pour le président polonais, une terrible catastrophe pour le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Le président américain Donald Trump a évoqué quant à lui l'un des plus grands trésors du monde, tandis que son épouse Melania dit avoir le cœur brisé. Il y a 2 ans, la première dame avait visité la cathédrale avec Brigitte Macron. Le grand orgue de Notre-Dame avait d'ailleurs joué pour l'occasion. « Mon cœur souffre avec le peuple français », a tweeté pour sa part l'ex-première dame Michelle Obama, qui donnera une conférence tout à l'heure à Paris. À Paris, où le groupe de rock The National était en concert hier soir au Café de la Danse, il a dédié cette chanson à Notre-Dame de Paris. You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run.
Merci Valérie Crova. Notre-Dame de Paris est défigurée, mais elle est encore debout. Elle sera rebâtie, a promis Emmanuel Macron. Déclaration solennelle du chef de l'État hier soir devant Notre-Dame. Il était aux côtés du Premier ministre sur un parvis désert, bouclé par les pompiers, aux côtés de la maire de la capitale, Anne Hidalgo, et de nombreux ministres. La flèche s'était écroulée une demi-heure avant leur arrivée. Et par la porte principale, on pouvait apercevoir la nef plongée dans l'ombre, des braises rougeoyantes sur le sol. Mais l'intérieur de la cathédrale, les murs et l'autel sont intacts, car cette cathédrale contenait de nombreuses œuvres d'art et certaines ont pu être mises en sécurité dès hier soir pendant que les pompiers luttaient contre les flammes. Il a fallu faire très vite. Explication d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.
Seule bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre d'œuvres d'art inestimables ont été mises en sécurité et on organise en ce moment même le transfert des œuvres entre Notre-Dame et la mairie de Paris, où elles seront hébergées à l'hôtel de ville le temps d'être envoyées vers les musées nationaux.
Ça veut dire que vous avez pu entrer dans, enfin que des secours ont pu rentrer dans Notre-Dame, dans la nef et mettre à l'abri des trésors.
Exactement. Tout de suite a été déployé un axe d'urgence, outre la sécurisation des abords pour protéger les personnes. Une action urgente a été engagée par les pompiers et des services notamment du musée du Louvre pour aller mettre en protection tout ce qui pouvait l'être. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, on a des informations, mais elles sont partielles sur qu'est-ce qui a pu être sauvé ou pas. Mais on espère vraiment que le maximum aura pu être fait.
Mais ça veut dire pas forcément tout, Emmanuel Grégoire.
C'est une évidence que nous avons perdu des trésors inestimables ce soir.
Alors une souscription nationale pour aider à la reconstruction sera lancée, a promis Emmanuel Macron. Dans la nuit, la famille Pinault, troisième fortune de France, propriétaire du groupe de luxe Kering, va débloquer 100 millions d'euros via sa société d'investissement pour aider à la reconstruction. Et puis la Fondation du patrimoine va lancer elle aussi une collecte nationale dès aujourd'hui.
Il est 7h38, Laurence, dans le reste de l'actualité, cet immense espoir de l'immunothérapie intratumorale.
C'est-à-dire traiter le cancer au cœur même de la tumeur. En cancérologie, l'immunothérapie commence à être connue. La technique est âgée d'une petite dizaine d'années. Elle ne marche que sur certains cancers et sur certains patients. Mais pour les 20 à 30% de patients, eh bien, c'est efficace. Les résultats sont impressionnants. Jusqu'à présent, le traitement se faisait en intraveineuse et depuis peu, on tente donc d'administrer au cœur même de la tumeur en intratumorale pour plus d'efficacité et moins d'effets secondaires. À l'Institut Gustave Roussy, une vingtaine d'essais cliniques sont en cours et semblent très prometteurs, Véronique Julia.
L'été dernier, quand Fabien, 49 ans, s'est adressé à Gustave Roussy, le pronostic paraissait bien sombre. Après un premier mélanome soigné en 2015, Fabien venait de se faire diagnostiquer une vingtaine de métastases. Il a fait, dès le mois de septembre, plusieurs séances d'immunothérapie intratumorale qui se révèlent très fructueuses.
On m'a annoncé que j'étais en réponse totale, c'est-à-dire que je n'ai plus de tumeur. Pour l'instant, tout se passe très très bien.
C'est un radiologue interventionnel qui opère. Aidé d'un scanner, il pique directement dans la tumeur en utilisant des doses très inférieures à celles d'une immunothérapie traditionnelle. Le professeur Thierry Debert dirige le service de radiologie interventionnelle à Gustave Roussy.
Aujourd'hui, les doses qu'on utilise pour l'injection intratumorale sont de l'ordre de 10% de la dose qu'on utilise par voie intraveineuse. Donc c'est de toute façon moins nocif d'un point de vue local et aussi d'un point de vue général.
Si la technique est prometteuse, beaucoup de questions se posent. posent encore. Combien de fois intervenir sur la tumeur? Avec quelle combinaison de produits? Combien de temps attendre entre deux injections? La très bonne surprise des premiers cas observés, en tout cas, c'est qu'en traitant, comme chez Fabien, 4 métastases, on en a fait disparaître dans la foulée une dizaine d'autres.
La question, c'est est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'on est capable de le provoquer chez la majorité des patients?
À Gustave Roussy, la technique se développe depuis à peu près 3 ans dans le cadre d'essais cliniques. 60 patients ont été pris en charge cette année. Ils seront près de 200 l'an prochain.
Véronique Julia, SOS Méditerranée s'empare de la campagne des Européennes. Les ONG accusées de complicité avec les passeurs par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner estiment que le droit maritime et donc le sauvetage des migrants ne cesse d'être bafoué. D'où cette série de vidéos pour mobiliser l'opinion publique et interpeller les parlementaires européens. Des vidéos portées par de nombreuses personnalités comme Daniel Pénac, Robert Guédiguian ou encore Ariane Ascaride. Reportage de Delphine Yvenoux qui a visionné hier cette première vidéo.
Quatre vidéos pour quatre étapes de la dégradation des conditions du sauvetage en Méditerranée. La première nous ramène il y a près de 5 ans.
Le 31 octobre 2014, faute de soutien de l'Union européenne, l'Italie met fin à l'opération Mare Nostrum.
L'interdiction d'accès aux ports italiens et maltais, la coordination du sauvetage désormais confiée aux gardes-côtes libyens, autant de violations du droit maritime, s'insurge Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, qui a des mesures concrètes à présenter au Parlement européen.
C'est de lutter pour sauver des vies en mer, en renforçant les capacités de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. Ce sera également d'exiger des États européens qu'on mette enfin fin au harcèlement administratif, politique, judiciaire dont sont victimes les ONG. Et puis enfin, le débarquement des survivants dans un port sûr, c'est-à-dire pas en Libye.
Pour porter cette campagne européenne, l'association a reçu le soutien de plusieurs personnalités, comme le cinéaste Robert Guédiguian, petit-fils d'un immigré arménien arrivé à Marseille par bateau.
L'Europe, qui est censée représenter des choses qui se sont passées du côté du 18e siècle, ce qu'on a appelé les Lumières, l'Aufklärung, etc. Aujourd'hui, préfère effectivement mettre des moyens à la sécurité des frontières, plutôt qu'effectivement les moyens, tous ces moyens-là pour être affectés dans l'aide au développement, par exemple. C'est insupportable.
356 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le 1er janvier.
Delphine Evenou.
Merci Laurence Thomas.